comment déceler et lutter contre la radicalisation.
Sujet pertinent et d'actualité avec cette proposition du service prévention de la délinquance de la ville de Manosque. Une journée durant, les membres référents sécurité et prévention de la délinquance et des observatoires de citoyenneté et tranquillité publique de la ville et de l'agglomération ont écouté et questionné Séraphin Alava, professeur en sciences de l'éducation et expert à l'UNESCO sur les liens médias sociaux et les radicalisations. Des échanges constructifs pour présenter de nouvelles formes de médiation et d'appropriation des savoirs et quelques clichés qui tombent. Un individu n'est pas forcément radicalisé s'il porte la barbe et s'habille à l'oriental. Par contre, s'il se coupe de ses contacts habituels ou de sa famille au profit de sphères obscures, s'il affiche une grosse séparation et sans contact avec toute femme, ou encore s'il passe des heures isolé dans un lieu clos mais avec accès Internet, là, il faut s'inquiéter, voire effectuer un signalement, car les contacts avec un individu ou un groupe radicalisé sont inopérants. Comprendre, prévenir et éduquer furent les maîtres mots de cette journée. Je vous propose d'écouter l'animateur de cette opération, le professeur Séraphin Alava. Séraphin Alava, est-ce qu'on peut donner une définition de la radicalisation ?
La radicalisation est un processus qui engage la personne dans des idées radicales violentes et qui peu à peu va l'entraîner dans un basculement vers la violence extrême.
Comment est-ce qu'on s'aperçoit qu'un jeune ou qu'un moins jeune est radicalisé ?
D'abord, on commence à repérer que son discours change, que son discours devient plus radical, plus opposé, qu'il a des idéologies dans lesquelles il semble n'avoir que comme solution le passage à la violence. Il accepte moins de débattre, d'échanger, et son niveau d'argumentation se réduit. Puis on s'aperçoit que ce jeune se radicalise parce que il change dans sa façon de vivre, dans ses comportements, aussi dans ses amitiés. Et peu à peu, on le voit s'enfermer dans une idée assez grise, dans laquelle il n'y aurait pas de possibilité de convaincre l'autre autrement que par la violence.
Comment répondre à ces situations ?
Il faut d'abord se mobiliser. Se mobiliser, pas seulement les parents qui ont une grosse tâche à faire, mais que les enseignants, les éducateurs, les responsables municipaux puissent se mobiliser là-dessus. Il faut que chacun apporte sa pierre à l'édifice. C'est un édifice très important. C'est pas seulement le problème, la problématique de la police ou du renseignement. C'est aussi un problème de politique de ville. C'est aussi un problème éducatif ou un problème culturel. Il faut que chacun se sente concernés et se mobilisent pour prévenir ces radicalisations et parallèlement, et tant mieux, favoriser le vivre ensemble.
Évidemment, le communautarisme, c'est un souci dans notre pays qui est en plus laïque et donc la séparation homme-femme est aussi un élément qui permet de voir la radicalisation.
La plupart des mouvements radicaux ont une vision très fermée du rapport homme-femme et on repère dans les discours des oppositions permanentes entre le rôle que serait attribué aux hommes et celui des femmes. Certaines communautés ont aussi cette vision-là, alors où développe une idée assez radicale de l'égalité de genre. Je crois que c'est une des parties. En même temps, je crois que la fermeture culturelle à sa communauté, le refus de voir la diversité de sa communauté, l'idée qu'une communauté n'aurait qu'une façon de penser, est aussi un enfermement. Plus on développe l'idée que une communauté marocaine, c'est très divers, il y a beaucoup de choses, et pour les Marocains, ceux qui sont du côté de Casablanca n'ont rien à faire ou peu de choses à faire avec ceux de Meknès, c'est développer la différence. Nous sommes Français et nous savons toute la diversité de nos régions. C'est dans tous les pays du monde. Le communautarisme, pour moi, c'est la réduction de la différence culturelle à une seule identité.
Il va y avoir un problème prochainement dans notre pays qui est marqué par le terrorisme, vous le savez depuis déjà plusieurs années, le retour probable des femmes et voire des enfants de djihadistes, voire des femmes djihadistes. Comment est-ce qu'il faut appréhender ce problème ?
Je crois qu'il faut l'appréhender en respectant deux éléments. D'abord, les droits internationaux. Et je rappellerai que tout mineur est innocent et que tout mineur mérite éducation, identité et protection. Quand on parle des enfants du retour, c'est pas tous des enfants soldats. Il faut se rappeler que l'âge s'étale de 1 an jusqu'à 16 ans. Ce sont donc des enfants qui ont vécu des choses tout à fait différentes. Beaucoup ont été victimes et d'autres parfois ont participé à des éléments. Je crois que d'abord il faut respecter ce droit. Deuxième, le droit de justice. C'est un droit qui est fondamental. C'est-à-dire que tout ce travail-là ne doit pas se faire sans un regard sur les actes et sur la responsabilité. Je pense particulièrement aux maires. Il faut que les maires puissent pouvoir rendre des comptes, expliquer leurs gestes, expliquer leurs actes, et que si des personnes veulent porter plainte, elles aient le droit. Il faut donc qu'il y ait une judiciarisation de ces événements-là. Les maires sont responsables de leurs enfants. Elles sont aussi responsables de tous leurs actes. Je pense que leur retour doit se faire dans le cadre des circulaires et des textes réglementaires dans lesquels elles ont un droit de défense, mais elles ont aussi à se présenter devant la justice et que la justice dise si la justice a quelque chose à leur reprocher ou pas.
Il y a un outil qui existe depuis quelques années et qui est important, c'est le fichier S.
Oui, le fichier S est un fichier administratif qui est utile. Il ne faut pas penser que c'est juste un fichier pour mettre des fiches et classer les individus. On rentre dans un fichier S, on sort dans ce fichier S. Mais il permet simplement de pouvoir regarder les déplacements, regarder les fréquentations d'un certain nombre de personnes. Ce fichier ne doit pas être exclusif d'un droit et d'une capacité des personnes à pouvoir intervenir sur ce classement et pouvoir exercer leurs droits. Aujourd'hui, la France, qui est mobilisée contre le terrorisme, a besoin d'outils administratifs qui permettent un petit peu de suivre les personnes et de pouvoir regarder ceux qui peuvent représenter un danger ou ceux qui ne représentent aucun danger.
Un outil important, donc.
Oui, c'est un outil important. Alors, bien sûr, il est normal aussi que les personnes s'inquiètent d'un classement automatique dans les fichiers S ou d'une utilisation qui serait autre qu'administrative. Et donc, il faut que les associations, les organisations des droits de l'homme puissent avoir un regard sur cette organisation et que ça ne se fasse pas dans la discrétion d'un bureau, mais bien avec une capacité des personnes de pouvoir intervenir sur ce classement.
Séraphin Lava, vous avez animé ici à Manosque une réunion toute la journée sur la radicalisation. C'est un travail que vous faites régulièrement et est-ce que ça porte ses fruits ?
Alors, c'est un travail que nous faisons, parce que nous sommes nombreux à faire ce travail-là, et que nous faisons régulièrement. Nous répondons à chaque demande de comités locaux de prévention de la délinquance et de la radicalisation pour rencontrer les acteurs de terrain et pouvoir leur transmettre nos connaissances. Je crois que ça porte son fruit dans le sens qu'aujourd'hui, il y a une mobilisation de l'ensemble des corps de l'État et de l'ensemble de la société civile, et que peu à peu, on se rend compte que des actions éducatives, des actions culturelles, des actions sociales peuvent être des outils de prévention.